Bonjour, ici Célia Héron, hôte et coproductrice du podcast Brise-Glace. Avant de vous laisser plonger dans notre toute nouvelle série audio, il n'y a qu'à m'expliquer, un mot pour vous signaler que les podcasts du temps se développent. Découvrez Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. Et j'en profite pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement web et print sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute!
La construction du couple hétéro-mono où on doit se compléter, etc. En fait, c'est énormément de pression de satisfaire quelqu'un sur tous les points. Et c'est souvent impossible. Et ça, peut-être ça nous met aussi dans des rôles qu'on ne veut pas avoir. Moi, je trouve que je suis beaucoup plus libre dans une relation polie où on a envie de passer du temps avec moi parce que j'apporte telle chose à cette personne et pas une autre.
Bienvenue dans la saison 4 de Brise-Glace. Un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Vous faites peut-être partie de ceux, toujours plus nombreux, qui se posent des questions sur le couple, sur sa construction sociale, sa capacité à nous rendre heureux, et ce qui crée, au fond, l'intimité. Le trentenaire valaisan en était là de ses réflexions quand il a rencontré sa conjointe. Ensemble, ils ont décidé d'explorer les alternatives au modèle hétéro-exclusif. De Club Libertin en expérience polyamoureuse, leur histoire est celle d'une relation en chantier perpétuel, loin des dictats.
Je m'appelle Nicolas, j'ai 31 ans maintenant. J'ai grandi dans le Chablais valaisan. J'ai grandi dans une famille d'immigrés de l'ouest de l'Europe, donc Portugal et Espagne. Donc avec vraiment des valeurs très chrétiennes. Une maman qui va beaucoup à l'église, un papa qui est aussi assez croyant, même s'il le démontre moins, mais qui croit quand même au couple monogame, on va dire, avec une très très forte conviction sur la complémentarité de l'un et de l'autre. J'ai un petit frère qui a reproduit ce schéma de couple vraiment très classique. En l'occurrence, ils sont mariés vraiment très jeunes, avec des enfants très jeunes. Et on m'a toujours encouragé à être vierge au mariage quasiment, en me disant « ouais, tu verras, c'est quelque chose de très intime, qu'il faut partager avec seulement une personne que tu aimes, etc. » Mon père a moins ce discours. Je pense qu'il y a quand même quelque chose sur la virilité qui se joue, du fait que, en tant qu'homme, la valorisation du don juan est assez présente. Et quand j'ai eu croisé des fois mon père dans l'espace public et que j'étais avec des copines, il m'a fait quasiment « ah, c'est bien mon fils, je vois que ça se passe bien pour toi ».
Et vous étiez quel genre d'adolescent, justement, avec ces jeunes filles?
Bah, disons que je suis né en fin d'année. On m'a mis à l'école avec un an d'avance, donc j'étais le plus jeune à l'école. Et dans l'adolescence, il y a ce décalage qui se crée où les autres commencent à avoir des poussées de croissance, etc. Et où moi, j'étais le frêle, petit dernier, avec les traits très fins. On me confondait des fois avec une fille dans les premières années d'école. Du coup, en fait, je me suis jamais trop reconnu dans ce modèle viril hégémonique, on peut dire. Mais effectivement, j'ai traîné avec beaucoup de filles, même joué avec des jouets de filles étant petit. Avec les filles, j'adorais parler avec elles, j'ai toujours été souvent leur confident d'amour. Souvent, on me posait la question « Ah, toi qui es un homme, comment ils réfléchissent les hommes ?» Ce genre de choses.
Et en tant que jeune adulte, dans quel type de relation vous vous imaginiez ?
Je sentais que ça me pesait, pas seulement le modèle couple, mais aussi le modèle de virilité, ce qu'on attend de moi en tant qu'homme. Et puis aussi ce que je devais attendre de ma partenaire aussi. Une énorme autour de la sexualité qui ne m'allait pas du tout. Des choses où ma partenaire n'avait pas envie. Et moi, on m'a dit, en tant qu'homme, il faut que tu aies une sexualité vraiment active. Donc il faut que presque tu la convainques. En fait, c'est le jeu du couple quasiment de madame a mal à la tête, monsieur, il faut un peu forcer. Et ce jeu-là ne me convenait pas du tout. Mais en même temps, je ne connaissais que ça. Je me dis, faut que je reproduise ça, c'est normal, c'est comme ça. Et même si t'es pas bien avec ça, c'est comme ça que ça marche, il n'y a pas d'autre solution.
Comment vous décririez vos premières relations amoureuses? Comment vous vous sentiez dans ce cadre-là?
Alors, il y a eu deux relations amoureuses majeures dans ma vie où il y avait vraiment eu des grands questionnements par rapport à ça. La toute première, on a vraiment reproduit le schéma du couple hétéro-exclusif. Par exemple, ma partenaire avait coupé court à ses amitiés hommes alors que je n'avais pas demander de faire quoi que ce soit. Il y avait quelque chose d'ordre, l'amitié entre hommes et femmes, j'y crois pas, du coup je coupe tout. Par exemple, elle voulait aller en boîte de nuit, mais elle n'osait pas aller sans moi. Je lui dis, mais tu peux y aller, je vois pas le problème. Et deux, trois fois, elle a voulu aller en boîte de nuit et au bout de 5 minutes dans la boîte, elle se sentait trop mal vis-à-vis de moi. Il y avait vraiment une culpabilisation. Alors que pour moi, j'étais content d'avoir ma soirée tranquille à la maison et je me regardais mon petit film, par exemple.
Aucune jalousie, quoi.
Non, non, vraiment pas. J'ai jamais été trop quelqu'un de jaloux. Et en fait, j'ai toujours trouvé assez normal d'être attiré par d'autres personnes, même étant en couple. J'ai pu ressentir la jalousie. Mais des fois, je sens que cette jalousie, même si on n'est pas jaloux, il faut la ressentir. Il y a cette injonction, des fois, il faut être jaloux pour prouver à l'autre qu'on est amoureux. Sinon, ça va pas, c'est que tu l'aimes pas. Il y a peut-être eu aussi ce genre d'interaction.
Et cette deuxième grande relation ?
Alors, la deuxième relation était très violente pour moi, puisqu'il y avait un investissement énorme de ma part, et on va pas dire nul, mais pas franche de la part de ma deuxième relation. Elle m'a même trompé, puisqu'elle a eu une sexualité avec quelqu'un sans m'en parler ou sans m'avertir. Elle m'a même trompé plusieurs fois. J'ai pu me ressentir jaloux à ce moment-là, mais parce qu'on m'avait, je pense, dit qu'il fallait que je sois jaloux. Et finalement, en y réfléchissant depuis pas mal d'années, je pense que ce qui m'avait plus dérangé dans cette interaction, c'est qu'elle s'était pas protégée. Donc en fait, elle m'avait mise en danger, moi, de par son comportement de tromperie, en fait. Ben, c'est de la tromperie, vraiment, comme on peut l'entendre, quelque chose de faire dans le dos de l'autre sans le consulter avant. C'était peut-être une des choses qui a fait qu'on s'est séparés aussi.
Vous aviez évoqué avec elle, avant que ça arrive, le fait de pouvoir ouvrir le couple ?
Pas du tout, parce qu'elle m'a trompé vraiment au début de notre relation. Si elle fait ça dans mon dos, enfin, comment je peux avoir confiance en elle pour ouvrir et je pense que j'avais pas encore cette pensée à ouvrir mon couple à ce moment-là.
Alors comment c'est venu ?
En fait, cette deuxième relation s'est terminée. Après, j'ai voyagé quelques temps. Je me suis retrouvé seul avec moi-même pendant ce voyage, pendant plus de 8 mois. Je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il faut dans ma vie pour moi, professionnellement, aussi sentimentalement. J'ai voyagé presque pendant 2 mois avec des hippies, un peu en Inde et au Népal notamment. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup ces modèles un peu libres, ouverts, où si on s'aime tous, c'est magnifique. Et sur le fond, j'étais là, waouh, ça doit être super chouette de pouvoir vivre ce genre de choses. Et en revenant, j'ai rencontré ma compagne actuelle, qui est une féministe militante, qui est aussi assez critique sur le couple hétéro-exclusif. Dès le premier rendez-vous, je me souviens que je lui ai parlé de couple libre et que si c'était quelque chose qu'elle pourrait expérimenter. Et j'ai eu la chance de tomber sur elle, puisqu'elle est, c'est une personne très très curieuse et ouverte. Et après 6 mois de relation, on a commencé par faire des expériences libertines ensemble, donc avoir une sexualité ensemble avec d'autres personnes. Je me souviens que notre première expérience était dans un club, ce qu'on appelle un sauna libertin. C'était au sud de la France. Et qu'on a eu une sexualité, alors justement on appelle ça du côte-à-côtisme, où il n'y a pas d'interaction physique avec d'autres couples, mais il y a des échanges de regards ou des discussions, etc. Et... ça s'est assez bien passé. Il y a quand même certaines interactions auxquelles on n'était pas préparé, peut-être. Parce que ce monde libertin, il rejoue beaucoup les codes du porno, autour de la performance, autour des cultes du corps sans poils, par exemple, un berbe, certaines choses comme ça. Et il y a beaucoup des représentations un peu genre échange de femmes, en fait. Où dans un couple... elle n'est pas forcément d'accord d'être là, mais elle le fait pour lui, et lui veut avoir d'accès à d'autres corps de femmes, donc. Par exemple, on me demandait à moi si ma compagne était intéressée à échanger.
Et pas à elle.
Ouais, et du coup, j'ai regardé ma compagne, j'étais avec les gros yeux, et je me suis un petit peu effacé parce que j'étais tellement mal à l'aise que pour moi, ça n'a pas été possible d'aller plus loin. Même si à ce moment-là, ma compagne était OK pour faire du côte-à-côtisme avec ce couple, donc... Mais je me suis dit que, en voyant ce type de profil, ce sera pas que du côte-à-côtisme, il y aura du forçage un peu, ou des trucs comme ça. Ce qui m'a aussi posé des questions sur, est-ce que la compagne de ce couple, est-ce que je lui plais vraiment, ou est-ce que c'est vraiment un truc, juste pour lui, quoi.
Est-ce qu'avant d'y aller, vous vous étiez mis des limites, vous vous étiez fait une sorte de checklist de choses qui étaient ok, pas ok?
J'avoue que notre toute première expérience dans ce sauna, on n'a pas trop parlé des limites au début. Mais en fait, c'était un petit peu clair entre nous qu'il n'y aurait pas plus que du côte-à-côtisme. À côté de nous, il y avait 3 couples qui prenaient soin les uns des autres et c'était super beau à voir On était sur un immense matelas, ils étaient dans leur petite bulle et c'était super chou. Et en sortant de là, on s'est dit, waouh, ça peut être quelque chose qui peut nous parler. On peut peut-être voir d'autres endroits. On a fait notamment un club ici en Suisse qui est vraiment super chouette, je trouve, pour des gens qui débutent, entre guillemets, on peut dire. Puisque après, on a été dans d'autres clubs qui sont en région française voisine, qui sont un peu plus stricts au niveau, par exemple, des dress codes. On s'est retrouvé des fois devant des clubs où il y avait les recommandations, par exemple, de dress code devant la porte. Pour les hommes, chemise, pantalon. Pour les femmes, il y a une liste de 2 pages sur la taille du talon où il faut que ça soit court, échancré, coquin, aguicheur, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Où je me sens vraiment de nouveau dans cet échange de femmes qui sont obligées de s'habiller hyper court ou même des fois transparent complètement. Alors qu'il y a des hommes qui sont en chemise, pantalon, comme s'ils allaient au travail, quoi. Franchement, avec ma compagne, on n'a aucun problème à se retrouver nu dans d'autres personnes qui sont nues aussi. Mais si je dois être nu au milieu de personnes habillées, là, il y a un problème pour moi.
Et vous avez donc décidé d'y aller à quelle fréquence, entre guillemets ?
Au début qu'on a découvert ça, je pense qu'on a été 5 fois en club en peut-être un an, ou un peu moins. Donc pas énormément non plus. On s'est peut-être aussi plus tourné sur des rencontres qu'on appelle privées, qu'on organisait soit en bar, soit chez nous, soit chez les couples qu'on rencontrait, des repas, des soirées, jeux de société, pour faire connaissance ou d'autres trucs comme ça. Moi, j'ai déjà été intéressé à une forme de relation alternative. On venait d'emménager sur Lausanne et je me suis dit, ah ben, il y aura peut-être des communautés. Là, j'ai trouvé polyamour sur Internet. La définition du polyamour, c'est une personne qui a des relations amoureuses, sentimentales et sexuelles avec plusieurs personnes. Et je suis tombé sur un site d'une communauté polyamoureuse lausannoise, ou même suisse-romande en fait, et qui organisait des cafés pour parler simplement des expériences de chacun. À ce moment-là, ma compagne n'était pas très disponible au niveau de son travail et de ses études. Du coup, j'y suis allé un peu en solo. Et dans ces cafés, on m'a recommandé le livre Ethical Slut en anglais, mais La salope éthique en français, qui peut donner de bons outils pour des gens qui veulent se lancer dans une sentimentalité ou dans une forme de couple alternative. Et juste après, nous, avec ma compagne, on a eu la chance de pouvoir partir en voyage quelques mois ensemble en Amérique centrale, enfin bref. Du coup, on a débattu pendant ces 3 mois de voyage autour de ce livre. On a fait un exercice qui était dans ce livre d'ailleurs, qui est de créer un contrat de relation. Alors, ça peut paraître très procédurier et peut-être tue l'amour pour certains, mais franchement, je trouve que c'est quelque chose qui nous a apporté énormément de mettre des mots sur ce qu'on a envie dans notre relation, sur ce qui est important pour chacun. On est arrivé à parler de détails qui, pour moi, étaient importants, pour ma compagne, pas du tout, ou l'inverse. Et en fait, ça a aussi redéfini ce qu'est l'intimité, ce qu'est le partage entre nous. On a fait vraiment un contrat de, je pourrais presque dire, 10 pages. Au début, c'était quand même aussi des règles, parce qu'on a vu qu'il y a certaines situations qui pourraient peut-être nous insécuriser, qui pourraient nous faire ressentir de la jalousie. Comme je disais, en polyamour, c'est pas parce qu'on est polyamoureux qu'on reçoit pas de jalousie. Au contraire, on se challenge, on va chercher au plus profond de nos peurs, et en fait, on les expose, et on se re-questionne là-dessus. C'est ça que je trouve hyper intéressant dans cette démarche.
Quand vous dites justement qu'il y a des zones d'insécurité quand même qui émergent aussi, c'était quoi les vôtres ou les siennes ?
Au début, de notre contrat, on a parlé d'égalité, de traitement entre l'un et l'autre. En parlant de tout ça, on s'est vu changer ce terme d'égalité en équité. Ce qui est important pour moi ne l'est pas forcément pour elle, et vice-versa. Par exemple, je suis un grand fan de science-fiction. Partager la sortie en avant-première d'un film est beaucoup plus important pour moi qu'elle aille coucher avec quelqu'un d'autre. Et si elle va voir une première diffusion d'un film que j'adore avec quelqu'un d'autre, je vais très mal le prendre, parce que j'ai envie de partager ça avec elle. Donc on s'est vite rendu compte qu'il fallait une notion plutôt d'équité, de dire, si moi j'ai envie de faire quelque chose, je me pose toujours la question, est-ce que je me sentirais bien si ma compagne le faisait ? Il y a ce travail de miroir, finalement, de se mettre de l'autre côté. Donc il y a eu beaucoup de discussions autour de ces limites. Et il y a aussi des limites qu'on a rajoutées, enlevées. Enfin, c'est très vivant comme contrat. C'est pas quelque chose qui est figé dans la pierre, c'est vraiment quelque chose qui bouge. Par exemple, inviter des méta-amours ou des relations à la maison. Avant, c'était pas autorisé puisque ça pouvait nous mettre en insécurité. Et maintenant, on se rend compte qu'on avance dans notre cheminement et que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager. Il y a eu aussi la limite, que maintenant on ne l'a plus, mais de dormir chez d'autres personnes. Pour nous, au début, c'était important de débriefer après les rencontres qu'on faisait, de parler comment je me suis senti, comment tu t'es senti par rapport à tout ça. Il y a eu aussi énormément de discussions autour de risques IST, MST, etc. Par exemple, on demande directement si les gens se sont fait tester récemment ou pas. Et suivant la réponse, il y a des protections au niveau, par exemple, au sexe oral. Donc j'ai pu faire connaissance avec des digues dentaires, qui sont des dispositifs qui permettent de faire des cunnilingus en ayant une protection, comme un préservatif. Donc en fait, il y a eu plein d'arrangements comme ça au fil du contrat.
La première fois que vous vous êtes retrouvés avec quelqu'un d'autre, comment ça s'est passé ?
Alors la toute première fois qu'on a fait quelque chose ensemble, ma compagne a allé voir une personne qu'elle avait rencontrée déjà en tant que célibataire et qui était d'accord aussi pour ce schéma de relation, parce que la notion de transparence envers tous était aussi importante pour nous. Il y a quelque chose aussi de très éthique dans cette démarche. Et on a fait vraiment cette première expérience chacun de notre côté, mais au même moment. Dans la même temporalité, vraiment, la même journée, on s'organisait ça pour vraiment essayer d'avoir le moins de déséquilibre possible au début. C'est ce qui nous faisait un peu peut-être peur. Ça s'est relativement bien passé. Il y a quand même eu... Si je peux parler de mon truc personnel, moi j'ai eu l'impression de trahir ma compagne. Dans cette construction qu'on a depuis petit, que le fait d'avoir une sexualité en dehors de ton couple, c'est pas bien.
Donc même avec son accord, même avec ce contrat, même sachant qu'elle-même était avec quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que vous avez ressenti.
Ouais, ouais. Et que je peux encore parfois ressentir si j'expérimente peut-être des trucs qu'elle n'a pas encore expérimenté, par exemple. Mais en même temps, c'est hyper compliqué, parce que là, on a eu la chance de pouvoir avoir ces deux personnes au même moment, le même jour, mais ça se passe très rarement comme ça. Et puis il y a aussi des moments où moi j'en ai envie, elle pas, enfin bref. Donc je rencontre une femme sur Genève qui est très ouverte, elle était dans des modèles de couple hétéro-monogame qui ne lui convainc pas, et elle dit « Ah non, moi j'aimerais vraiment être libre, donc si on partage que de la sexualité éventuellement de l'amitié, ça me va, mais ça va pas aller plus loin. » Je dis « Ok, c'est parfait. » Je vais chez elle, on regarde un film, on couche ensemble, et en fait je devais prendre le dernier train pour revenir à la maison, et... Selon elle, je suis parti relativement vite après qu'on ait une sexualité. Il y a eu quelque chose de « tu m'as pas respecté parce que t'es parti trop vite ». Et en fait, beaucoup de fois, j'ai rencontré des femmes qui se disent « ok » et finalement, c'est dur pour elles parce que c'est elles qui se retrouvent toutes seules en fin de soirée et moi, je suis à la maison avec ma compagne, on discute, on avance, on est... Je suis pas tout seul à la maison, quoi.
Et quand vous rentrez ce soir-là, vous le débriefez avec votre compagne ?
Exactement, on débriefe les deux. Et ouais, ben ça s'est assez bien passé. Bon, moi j'ai quand même eu le contre-coup de j'étais potentiellement trahi. C'est une tornade d'émotions au début, je trouve. Donc il faut quelques jours quand même pour repositionner tout ça, y repenser. Et finalement, on voit qu'on s'aime même encore plus parce qu'on s'accorde cette confiance et découvrir ce monde, découvrir même d'autres personnes, en parler à la maison, ça nous rapproche énormément, énormément, énormément.
Il y a quand même bien des moments où vous n'êtes pas aligné.
Ouais, par exemple, une fois avec une femme, c'était une semaine où ma compagne avait beaucoup de travail et il se trouve que le jour où j'avais ce date, c'était le seul jour où elle était disponible pour qu'on fasse quelque chose ensemble. Il y a un jeu d'équilibrisme, je pense, entre mon couple que j'ai pas envie de délaisser, entre les personnes que je vois, que j'ai pas envie qu'ils se sentent comme des pièces rapportées ou comme des relations annexes. On a envie de respecter tout le monde. Donc, je me voyais mal annuler avec cette personne parce que c'était le seul jour où ma compagne était dispo et qu'on s'est pas vu la semaine parce qu'elle avait du travail.
On en revient là à la question qui est assez fondamentale, il me semble, du temps.
Alors, j'avoue que les agendas partagés aident beaucoup. Mais en fait, ça demande énormément de communication entre tous. Ça demande beaucoup d'énergie. Parfois, quand je parle que je suis polyamoureux ou dans ce genre de couple, on me dit « Ah, mais tu dois avoir 1000 compagnes, etc. » Pas du tout, c'est pas possible. 24 heures dans une journée, on peut pas en avoir plus. Donc ça demande vraiment une grande gestion du temps. Personnellement, j'adore passer des moments seuls, avoir des journées entières avec moi-même. J'adore ça. Donc pour moi, avoir plus que 2 voire 3 relations, c'est vraiment mon maximum. Après, je connais certains polis qui en ont 4, 5, et qui arrivent très bien à jongler. Mais de nouveau, il y a cette notion aussi d'équité entre tous, que j'ai retrouvé dans pas mal de couples polyamoureux, enfin de polycules, on appelle ça, des réseaux de relations, où typiquement ils se voient une fois par semaine parce que pour eux ça leur va très bien. Alors j'entends aussi les gens qui disent « Ouais, mais les gens polyamoureux, c'est ceux qui veulent pas s'engager, c'est ceux qui veulent des relations légères, qui demandent pas trop de temps. » C'est pas ça, enfin, on a une conception de la temporalité aussi différente. On a le temps de se voir, puisqu'il n'y a pas cette urgence de « Ah, puisqu'on est ensemble, faut qu'on soit ensemble, faut que ça soit dense, faut qu'on vive tous les jours ensemble. » Alors que là, non, c'est vraiment étalé, on regarde, on a envie de se voir, pas envie. Il y a vraiment de l'écoute entre tous. Tous les jours, je découvre des relations polies qui sont différentes. Donc, il y a autant de manières d'être en couple que de personnes polies. J'aime beaucoup aussi cette fluidité, des fois, qu'ils passent par des moments où ils ne se voient pas du tout, ou des moments où ils passent deux semaines ensemble, parce qu'ils en ont juste envie à ce moment-là, et c'est OK pour tout le monde. Et je dirais même plus, aujourd'hui, je me pose des questions. Quelle est finalement la frontière entre de l'amitié, de l'amour? Parce que finalement, on aime ses amis. Enfin, en tout cas, moi, les miens, je leur dis que je les aime. Et il se trouve que certains de mes amis, je peux avoir potentiellement une sexualité avec eux. Donc en fait, c'est aussi beaucoup plus fluide, en fait, j'ai l'impression, dans les relations humaines qu'on peut avoir.
Qu'est-ce que ça vous apporte?
Pour moi, ça m'a fait une psychothérapie, on va dire, gratos. Il y a des moments durs, comme il y a des moments où ça se passe très bien, mais en majorité... C'est chouette et on est des gens qui communiquent beaucoup, donc c'est plus facile aussi. Et moi, je me souviens qu'au début, en tant qu'homme, on m'a pas beaucoup appris à communiquer sur mes émotions. C'est quelque chose qui est venu aussi grâce à ça. Donc, je peux parler de plus mes émotions maintenant, de ce que je ressens, de trouver le curseur de qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce que j'ai envie, m'écouter plus. Si aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir de relation, j'en ai pas. Si demain, j'ai envie de faire du libertinage, on en discute et on regarde les possibilités qui peuvent... dans la mesure de tous, bien sûr, dans la bienveillance de tous et la considération de tous. Je me suis jamais senti aussi libre en couple qu'avec ce modèle de relation-là, où je sais que demain, si j'ai envie d'aller en boîte, et puis de danser, puis voir ce qui vient, ou rencontrer des gens, juste discuter, ou juste avoir une sexualité ou une sentimentalité, je peux le faire, c'est quelque chose qui est ouvert. Je suis content aussi quand... ma compagne arrive à la maison puis dit ça s'est super bien passé avec tel et tel, et lui en plus il est biologiste et il est hyper intéressé par des animaux, est-ce que ça te dit de venir avec nous faire une observation de tel et tel animal, du coup on se voit les trois, on partage des activités ensemble, on fait connaissance aussi avec les pollicules de chacun, ça fait vraiment des espèces de familles. Après, il y a aussi des choses qui sont pas faciles pour certains, hein, comme les couples hétéromonogames qui ont leurs difficultés. Mais là, ça nous confronte vraiment à nos insécurités. Et moi, je trouve que ça m'a aidé à les surmonter, en tout cas, à mettre un mot dessus, et à me connaître, à m'écouter, ouais.
Mais là, vous êtes amoureux de votre compagne ?
Complètement, ouais.
Il y a jamais eu la crainte qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un ?
Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'ENR, énergie de nouvelles relations. C'est ce truc justement où j'ai envie de m'engager à fond dans cette relation parce qu'on a envie de se voir beaucoup et qu'on découvre l'un l'autre, etc. Alors ça peut arriver, hein. Là ça ne nous est pas encore arrivé. Ce qui arrive plutôt, elle, en l'occurrence elle a une relation en ce moment, mais c'est dans une temporalité qui est pas dans ce truc à 100% tous les jours ou toutes les semaines. Comme il n'y a pas cette urgence, ça s'étale un peu plus. Et la première fois qu'elle m'a présenté sa nouvelle relation, je me dis c'est chouette. Je pense que c'est quelqu'un que tu peux tomber amoureuse, effectivement, qui est un peu les centres d'intérêt et tout. Et on était au début de ce truc poli, et justement, elle me regarde et fait « Ah ouais, c'est vrai que maintenant tu te dis que je pourrais tomber amoureuse de cette personne, ok, je peux m'autoriser à le faire, parce que t'es ok avec ça. »
Il n'y a aucun moment où ça vous rend triste ?
Non, j'ai jamais eu peur, parce que j'ai vu à quel point ça nous rapprochait, et j'ai vu à quel point on s'aime, donc non, je crois, j'ai pas peur qu'elle parte avec l'un d'autre. Non, si on vient se quitter avec ma compagne, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose dans nos valeurs communes qui ne va plus. Et moi, je trouve que ça fait plus de sens.
Ces relations annexes, dans le cas du polyamour, elles vont jusqu'où, en fait ? Où est-ce que vous mettez la limite ?
Alors, ça dépend de tous. Notamment, les vacances en ce moment, c'est un grand sujet. Puisque là, en ce moment, je suis en vacances. Et je me vois assez partir seul ou avec quelqu'un. Ma compagne n'est pas disponible puisqu'elle travaille en ce moment. Alors, il y a un an en arrière, moi, j'avais pas envie qu'elle parte en vacances avec quelqu'un et elle non plus. Mais maintenant, moi, je peux l'envisager, elle aussi. On se pose la question, justement, si on partirait en vacances avec quelqu'un d'autre. Et là, de nouveau, c'est déjà des ajustements entre tous. Si moi, je rêve d'aller en Grèce et qu'elle y va avec sa relation, ben, je demanderai à être intégrée, par exemple.
Mais intégrée comment ?
Ben, aller avec eux. Aller les trois. Puisque dans ces relations, on se connaît tous, on se voit un peu tous. Dans notre modèle, on est transparent. Il y a certains modèles qui ont ce qu'on appelle la politique du secret. C'est plus les couples en relation libre qui sont dans ce genre de choses. Donc, on est transparent. C'est des choses qui sont possibles. Quand on en parle à des personnes qui ne sont pas dans ces modèles de couple, il y a énormément de projections. Certains amis se disent « Ah, mais si je te rencontre avec ton autre relation, je serais hyper mal à l'aise. Je sentirais que je participe à un truc de trahison. » Donc, en fait, ça leur renvoie beaucoup à leur modèle de couple monogame hétérosexuel. Et des fois, ben, ça passe pas.
Et justement, compte tenu de la famille dont vous venez, j'imagine que c'est complètement tu.
Ouais, il y a certains de mes cousins qui le savent. Du côté de ma compagne, il y a sa sœur qui est assez au courant, avec qui on partage beaucoup. Ma compagne connaît ma famille et moi je connais la famille de ma compagne de notre passé en monogamie. Mes ses parents, je pense qu'ils se doutent de quelque chose, mais sont plus déjà ouverts à la discussion que mes parents. Après, ouais, j'ai pas fermé à ce que la famille de ma compagne rencontre sa nouvelle relation. Mais de nouveau, là, je pense que en ce moment, en tout cas aujourd'hui, au jour où je parle, je pense que j'aimerais être présent quand même quand lui est là aussi. C'est des ajustements à avoir et peut-être dans un an, je dirais non, mais tu peux aller avec tel et tel, voir tes parents, ça me gêne pas. Chez mes parents, c'est plus compliqué parce que ben, venant d'une famille très catho, ils comprendraient pas.
Pourquoi vous pensez qu'il y a un tel tabou autour de ce sujet d'un point de vue sociétal plus largement ?
C'est peut-être lié à la sexualité, ou peut-être à la filiation aussi. Ah, mais si tout le monde couche avec tout le monde, comment on sait d'où vous venez ? Comment on sait qui est le fils de qui ? Mais en fait, on s'en fiche un peu, non ? J'ai eu rencontré des personnes qui avaient trois papas, deux mamans, que ça allait très bien, et qui sont hyper bien de leur basket. Au contraire, des fois, il y a des gens qui font de ce qu'on appelle la polyparentalité, qui se partagent des gardes d'enfants quand des fois il y a des colocations, des habitations entre plusieurs relations avec des enfants.
Souvent, quand on en parle à des couples hétérosexuels, il y a cette notion de ne pas être assez pour l'autre, c'est-à-dire que l'autre va aller, entre guillemets, voir ailleurs parce qu'il n'a pas ou elle n'a pas exactement ce dont elle ou il a besoin dans son couple primaire, quoi. Quel regard vous portez là-dessus ?
La construction du couple hétéromono où on doit se compléter, etc. En fait, c'est énormément de pression de satisfaire quelqu'un sur tous les points. Et c'est souvent impossible. Et ça, peut-être ça nous met aussi dans des rôles qu'on ne veut pas avoir. Moi, je trouve que je suis beaucoup plus libre dans une relation polie où on a envie de passer du temps avec moi parce que j'apporte telle chose à cette personne et pas une autre. On me prend pour qui je suis. Je n'ai pas besoin de jouer de rôle de complémentarité avec qui que ce soit. Si ben, moi, j'aime pas, je sais pas, faire de l'haltérophilie et puis quelqu'un aime bien l'en faire, il va pas le faire avec moi, il va faire avec quelqu'un qui aime en faire et peut-être qu'on va partager à un moment autre chose, littéraire ou j'en sais rien, quelque chose qu'on a en commun. Et ouais, il n'y a pas cette pression de il manque tout ça dans ma vie, tu dois m'apporter tout ça dans ma vie parce qu'on est en couple.
En fait, une des questions que je me pose en vous écoutant, c'est comment est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau-là de détachement ?
C'est là que c'est intéressant d'avoir ce qu'on appelle un réseau de soutien. Ces cafés polis, moi, ça m'a permis d'avoir l'expérience d'autres personnes. Ça fait un peu des groupes de parole où on s'auto-psychanalyse un peu tous ensemble. Quelqu'un a eu une situation semblable à la mienne qui me dit « Ah ben moi j'ai géré ça comme ça, comme ça, comme ça ». Et après maintenant on a la chance d'avoir Internet. J'imagine qu'il y a quelques années en arrière, quand il n'y avait pas tous ces moyens de communication, c'était d'autant plus dur d'avoir ces formes de relations sans aucun soutien psychologique ou émotionnel. Maintenant, même sur Facebook ou sur d'autres plateformes, on a des forums où on expose notre situation et souvent on trouve des réponses dans l'expérience d'autres personnes.
Et quel conseil vous donneriez s'il y a des auditeurs qui sont dans un couple comme celui que vous aviez commencé à construire, donc monogame, exclusif au début, et puis l'un des deux a envie de quelque chose et l'autre pas ?
Il y a beaucoup de gens qui me disent ça, qui me disent « Ah, mais... si moi j'ai envie d'aller voir ailleurs et m'accompagne pas, ben je sais pas, discutez-en. Moi j'avoue que j'ai aucun problème avec les gens qui sont en couple monogame, du moment que c'est pas forcé. Où commence le respect de l'un et de l'autre, les volontés de l'un et de l'autre, ça me met en tension moi en tant que poly parce que on a souvent ces questions. Moi je dirais ben qu'il faut aimer la personne même si on va voir ailleurs, mais Mais ça va nous envoyer des choses très très violentes et très dures à encaisser si on n'est pas prêt, je pense. Donc peut-être une thérapie de couple, mais peut-être pas forcément le prendre personnellement en fait aussi déjà. C'est pas parce que mon partenaire ou ma partenaire veut aller voir ailleurs que je lui suffis plus. C'est pas du tout ça. Ça peut être pour milliards de raisons, juste la curiosité, juste je sais pas, l'envie. On est humain, il y a des personnes dans la rue qu'on trouve beau, quoi, avec qui on a envie de discuter, avec qui on a. Je trouve que se couper de tout ça, c'est un peu couper une part de son humanité finalement. Il y a un livre qui est très bien qui s'appelle Polyamour et compersion. Et il y a une phrase dans ce livre que je trouve très chouette qui disait que la construction de l'amour aujourd'hui a été beaucoup faite selon le capitalisme, donc quelque chose comme une ressource finie. Et en fait, c'est bien une des seules ressources qui est infinie. Quand on voit des familles avec 7, 8, 10 enfants et les parents qui les aiment tous autant, regardez dans vos relations le nombre de personnes que vous aimez et vous allez voir qu'il n'y en a pas juste une. Il y a des amis, il y a de la famille, il y a des amours, il y a plein de choses.
Souvent, dans une relation, ça aide de pouvoir se projeter dans un avenir proche ou lointain, ça aide à sa construction. Comment est-ce que vous voyez ça?
Avec ma compagne actuelle, j'aimerais beaucoup me marier, par exemple. Je pense que c'est peut-être une chose qui me reste de notre éducation dans cette vision du couple monogame. Je me leurre pas en me disant « j'ai tout déconstruit ». Je suis au-dessus de tout ça, et pas du tout. C'est important pour moi de me marier avec ma compagne actuelle, même si maintenant ça me pose aussi des questions par rapport au féminisme. Mais c'est une quelque chose qui me travaille. Après, si je dois me projeter dans le futur, dans ce modèle de couple poly, moi j'aimerais beaucoup pouvoir, dans un monde utopique, disons, dans mon petit imaginaire, pouvoir avoir une grande maison en campagne avec nos relations... qu'on soit tous ensemble hyper bien et qu'on parte en vacances les uns avec les autres. Enfin, j'adorerais avoir cette ambiance un peu de grande famille, finalement.
Mais est-ce qu'on arrive à se satisfaire de quoi que ce soit dans cette configuration, puisqu'il y a toujours une opportunité ailleurs, au-delà?
Oui, je pense. On peut arriver à un moment où on dit « ok, j'ai pas envie de plus » ou « j'ai pas envie de... » ou des moments dans la vie ou pas du tout, au même titre qu'un couple monogame. Il y a des moments où des gens se divorcent, des moments pas, où ils finissent leur vie, ou... Sauf que là, ça permet une fluidité qui est plus importante. Et du coup, je pense qu'aussi, on se contraint moins à rester avec quelqu'un pour des raisons sociales, ne serait-ce que par exemple pour les enfants. Combien de couples restent ensemble juste parce qu'il y a des enfants et qu'ils se séparent dès qu'ils partent de la maison? Non, là, il y a vraiment une fluidité qui est chouette aussi.
Si vous vous mariez, est-ce que vos relations polyamoureuses feront partie des invités?
Oui, j'aimerais beaucoup. Ouais. Oui, oui. À voir si eux veulent être présents. Mais ouais, moi, je serais trop ravi... D'ailleurs, en rigolant, on se disait « mais comment on présente ces personnes aux gens qui sont pas au courant ?»
Ça va faire des tablées intéressantes.
Ouais, mais après, c'est notre côté un peu filou, on va dire. On aime bien aussi un peu challenger les gens et certaines personnes, des fois, on les embête un peu avec ça.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace et d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Je suis Célia Héron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours!